enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'avais envie de chercher, vous faire chercher des synonymes de heureux. Qu'est-ce que vous diriez si on devait donner des synonymes de heureux? Hein, j'ai entendu joyeux, content, ouais. Épanoui, ouais. Gay, ouais. Bon, gay, des fois on le dit. Moi j'aime mieux joyeux aujourd'hui, hein, mais bon. Encore. Satisfait, ouais, c'est bien, satisfait. Bon, un qui fait. Il y en a encore un autre que je voudrais vous faire dire, qui est qu'on dit un petit peu moins. C'est vraiment heureux, heureux avec grande satisfaction. Comblé, bon, comblé, ouais, c'est pas mal. Mais ça fait français un peu plus soutenu. On le dit pas souvent. Hein, je crois que je l'ai entendu. Bon, alors admettons que quelqu'un l'a dit. Bravo, c'est Béa. Béa, hein? On va lire ce matin les béatitudes. Mais, ah oui, avant, sinon je vais oublier, je voudrais vous présenter mon dernier livre. Hein. Donc, il s'appelle « Toi, vas-y ». Voilà, « Toi, vas-y ». C'est la vie d'Albert Burckhardt, le grand missionnaire qui était à l'origine du travail, le champ missionnaire qu'il avait ouvert au Tchad, au Centrafrique, qu'il a travaillé, merci, aussi au Congo, il y a aussi une œuvre qui est en Inde, qui dérive de son travail, et puis il a envoyé, je ne sais pas combien, des dizaines de missionnaires sur le champ missionnaire depuis le centre missionnaire qu'il avait ouvert à Chalon-sur-Saône. Donc c'est la première fois que j'étais allé au Centrafrique, à Bangui, c'était en 84, je crois. Il y était depuis 3 ou 4 ans. Et en 3 ou 4 ans, il était passé de 6 personnes, 6 étudiants sur sa terrasse. Et en 3 ou 4 ans, 4 ans je pense, ils étaient en train d'ouvrir la 13e église, uniquement dans la ville même de Bangui, sans compter celle qui était en province. Donc on l'appelait le Papa Burckhardt. Et c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment fait une œuvre extraordinaire. Donc les livres sont à vendre sur la petite table du fond là-bas, c'est Brigitte qui est mon attachée commerciale qui s'occupe de ça pour le compte de la librairie Philadelphie. Voilà, l'argent de la vente de ces livres sert à la mission. Voilà, vous travaillez dans tous les domaines à la fois comme ça. Alors donc, les béatitudes, qu'est-ce que ça veut dire les béatitudes? Vous connaissez le texte, hein? Bon tiens, on pourrait le lire déjà, on va commencer par le début, hein? Vous savez, tout le monde sait que c'est dans Matthieu bien sûr. Matthieu 5, c'est le début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Comme je dis toujours, qui n'était pas un sermon et c'était pas une montagne. Mais c'était pas un sermon au sens de sermon. Le mot sermon, ça nous fait tout de suite penser à quelque chose de fatigant, de pénible, hein? Mais là, c'est quelque chose qui vraiment vient de son cœur. Et puis, une montagne, oui, enfin, c'est une montagne, mais c'est un mont, quoi. Hein? Voilà, Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, Jésus, ayant ouvert la bouche, les enseigna et il dit, « Heureux les pauvres en esprit. » Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, on en reparlera après, hein, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Hein. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, parce que votre récompense, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, c'est ce qu'on a appelé, en général, ce texte, les béatitudes hein, du mot latin, beatos, qui veut dire heureux. Et c'est un texte qui est vraiment entièrement paradoxal. Parce que, effectivement, toutes les catégories, si je peux dire comme ça, toutes les catégories sociales que Jésus cite sont ceux qui sont malheureux. Alors, c'est quand même un comble. Hein ? Heureux les malheureux, on va dire. Et tout l'enseignement de Jésus est très souvent comme ça, paradoxal. Jésus nous surprend constamment. J'allais dire, il aime, dans le bon sens du terme, Jésus aime provoquer. Il aime nous bouleverser. Il aime changer nos certitudes. Il aime ne pas nous laisser dans nos positions, dans les choses qui nous rendent immobiles. Jésus est extrêmement toujours dérangeant. Si on fait bien attention à ce qu'on lit, à ce que Jésus dit, c'est toujours quelque chose qui provoque quelque chose en nous qui nous oblige à nous questionner, à nous remettre en question, qui nous oblige à revoir nos positions, à nous demander où on en est, pourquoi on fait ça, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on est comme ça, pourquoi on court ici, pourquoi on cherche ça. Et Jésus sape souvent nos valeurs, il nous replace devant des objectifs qui sont complètement différents. Et ici, cette succession de heureux, on serait tenté de dire heureux tous ceux qui vont mal, c'est quand même étonnant. Nous, on aime quand même, on dit toujours quand même qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Hein ? Ben oui. Jésus dit heureux les pauvres en esprit. Et le mot pauvre en grec, tokos, c'est un mot qui a un sens. Bien sûr, qui met en évidence l'indigence, mais aussi avec une notion d'humiliation. Quelqu'un qui est réduit, qui est diminué dans sa position. C'est pas simplement une question de pauvreté financière, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans cette position-là. Aussi, ça l'abaisse, ça le diminue. Mais Jésus ajoute ceux qui sont pauvres en esprit. Il n'a pas, dans cette phrase-là, il n'a pas seulement en vue des gens dont les finances sont pas très bonnes, ceux qui sont dans le rouge et qui ont des problèmes avec leurs banquiers. Mais Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ceux qui ne se confient pas en eux-mêmes, ceux qui n'ont pas le réflexe de croire qu'ils sont capables, ceux qui ne pensent pas qu'ils savent déjà. Ceux qui sont devant Dieu dans une position, je ne veux pas dire un mendiant au sens, dans un mauvais sens du terme, mais ceux qui s'approchent de Dieu pour recevoir, ceux qui savent qu'ils ont besoin de tout recevoir de Dieu, ceux qui en ont fini avec leur capacité. Les hommes, par exemple, nous les hommes, hein, combien de fois on pense qu'on va y arriver quand même, hein? On va s'en sortir. En général, souvent, je pense que les femmes sont plus facilement conscientes qu'elles ont des besoins. Les hommes, souvent, pensent qu'ils vont y arriver quand même. Ou en tout cas, ils se le jouent, quoi. Hein. Mais Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont d'accord pour s'approcher de Dieu et pour dire, j'ai besoin de tout. Comme l'apôtre Paul qui avait pu conclure et qui disait... qu'il avait besoin de tout. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien de fois, nous, on se retraduit ça. Et puis on dit, sans moi, vous ne pouvez pas tout faire. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, on peut faire des choses. On peut se lever le matin, mettre ses chaussettes, tout ça. Mais les choses importantes, les choses qui ont réellement une valeur, nous avons besoin de Jésus. Et ceux qui le savent sont heureux. ceux qui le savent sont heureux parce qu'ils sont dans la bonne position, ils sont dans le royaume de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus dit le royaume des cieux est à eux. C'est, ça ne veut pas dire que c'est leur propriété, mais Jésus fait exprès, et il fait exprès de nous choquer. Parce que normalement, bien sûr, ceux qui sont pauvres, ben, par définition, ils n'ont rien. Et là, Jésus dit, ceux qui n'ont rien, ils ont tout. Parce que si vous êtes dans le royaume de Dieu, si vous vivez dans le royaume de Dieu, si vous vivez des valeurs du royaume de Dieu, qu'est-ce qui peut vous manquer ? Oh, peut-être des fois des trucs matériels, bien sûr, vous n'avez pas assez d'argent pour aller faire du jet ski ou je ne sais pas quoi. Mais les choses vraies, les choses importantes ne vous manquent pas. Vous êtes dans le royaume de Dieu. C'est à vous. Je ne veux pas dire que c'est votre propriété. C'est comme quand quelqu'un dit « mon église ». Il ne prétend pas que l'Église est à lui, mais il veut dire qu'il est dedans, qu'il en est une partie, et que le reste est aussi une partie de lui. C'est pas simplement une relation, mais c'est quelque chose qui est identitaire. On a fusionné ensemble, on est membres les uns des autres dans le royaume de Dieu. Alors bien sûr, Jésus dit « heureux ceux-là ». Maintenant, ce que j'aimerais faire remarquer, avant d'aller plus loin dans ces béatitudes, c'est que Jésus n'a pas dit ça à la foule du monde. Jésus, ayant levé les yeux sur ses disciples, Jésus leur dit « heureux ». Parce qu'il parle à ses disciples. C'est seulement dans cette relation de disciples avec Jésus que nous pouvons être heureux dans ces conditions. Que nous pouvons être heureux lorsque les choses nous manquent, que nous pouvons être heureux quand nous sommes dans des afflictions, que nous pouvons être heureux face à de l'injustice, face à, comme on l'a vu à la fin, face à des persécutions, à condition d'être réellement disciples de Jésus. Si on est seulement sympathisant ou participant à une réunion évangélique, alors évidemment ces trucs-là, ça reste complètement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas du dedans, de l'intérieur. Qui ne vit pas en recevant ça de Jésus tous les jours, lui dit heureux les riches, heureux les en bonne santé, heureux ceux qui n'ont pas de problème, heureux ceux qui ont le moral, et puis heureux ceux que tout le monde apprécie. Ben, quand même, il est bizarre ce type. Alors, vous voyez, Jésus dit heureux les affligés. Jusque-là, vous voyez, il avait dit le royaume des cieux est à eux. Ils sont déjà dedans. Après, c'est tout au futur. Et ça peut nous inquiéter, ça peut nous inquiéter, parce qu'il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ah, c'est futur? Bon, c'est dommage. Bon, on va attendre. Hein. Mais on va attendre quand? Jusqu'où? On attend quoi? Est-ce que Jésus voudrait nous rappeler? Même si quelque part c'est un peu difficile, mais ce que Jésus voudrait nous rappeler, c'est que notre raison d'être ici-bas sur la terre, c'est pas ici-bas sur la terre. Nous ne sommes pas ici-bas sur la terre pour rester ici-bas sur la terre. Nous sommes sur la terre à cause de ce que nous allons devenir au ciel. Et chaque fois que nous oublions ça, alors nous pouvons devenir très malheureux. Malheureux ceux qui pensent que leurs objectifs sont pour ici-bas. Malheureux ceux qui travaillent pour ici. Malheureux ceux qui attendent leur récompense ici. Malheureux ceux qui servent le Seigneur en espérant être gratifiés ici. Malheureux. Parce que vous trouverez jamais ce que vous espérez. Et même quand vous obtiendrez ce que vous espérez, ça aura encore un goût décevant. Ça aura encore un goût amer. Mais nous sommes, et j'aimerais le dire, nous sommes ici pèlerins et voyageurs. Nous sommes ici sur la terre seulement parce que Dieu nous y laisse, alors qu'il aimerait tellement nous avoir avec lui déjà maintenant. Dieu, notre Papa, nous aime, nous l'aimons aussi. Ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons réunis entièrement avec lui. Il a la possibilité de nous amener au ciel et nous restons là. Cherchez l'erreur. Donc c'est que ça a un but. Et ce but, c'est que Dieu est en train de nous façonner. Il nous laisse ici parce qu'il nous façonne. Il nous laisse ici parce qu'il nous sculpte, parce qu'il émonde, parce qu'il taille, parce qu'il enlève, parce qu'il fabrique les éléments de sa sainteté au-dedans de nous. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas la fuite du péché. La sanctification, c'est marcher vers celui qui est saint. La sanctification, c'est construire la nature sanctifiée de Dieu en nous. Bien sûr, il n'y a que Dieu qui le fait. Mais il nous faut nous rappeler que nous ne sommes pas là pour ce que nous allons faire ici, pour ce que nous allons laisser ici. Nous ne sommes pas là pour laisser un souvenir. Nous ne sommes pas là comme combien d'hommes, des grands hommes, des hommes politiques, des présidents de la République ont souvent travaillé pour laisser derrière eux un truc qui soit leur trace, un monument, peut-être une loi, s'ils n'ont pas pu faire mieux. Au moins, ils ont laissé une loi. Mais d'autres ont travaillé à laisser des centres culturels, vous voyez, des trucs avec des tubes, enfin, n'importe, je veux dire. Et tout ça, c'est parce que c'est un manque de la vision de ce qu'on fait réellement sur la terre. Heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Parce que Dieu prend en compte et note tout ce qu'ils vivent. Jamais, jamais une souffrance, une difficulté d'un des enfants de Dieu n'a été aux yeux de Dieu quelque chose qui aurait été une quantité négligeable. Jamais une difficulté, jamais un soupir, jamais une larme d'un de ses enfants n'a laissé notre Père céleste insensible. Nous qui avons des enfants et des petits-enfants, chaque fois que nous les avons vus dans une situation difficile, dans un malheur, des petits chagrins d'enfants, même des petites choses, ça touchait notre cœur. Nous n'avons pas fait comme si ça n'existait pas. Alors que nous sommes par nature tellement limités. Jésus dira quelquefois, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais alors à combien plus forte raison notre Père céleste à compter toutes ces choses. Et nous ne sommes pas affligés pour rien, inutilement, et sans que ça n'ait de suite. Jésus nous dit, heureux êtes-vous, parce que vous êtes mes disciples. Et parce que vous êtes mes disciples, vos afflictions ont un sens. Vos afflictions veulent dire quelque chose. Elles auront une suite, elles auront un but, elles auront une rémunération. Heureux êtes-vous, parce que vous serez consolés. Et vous savez, des fois, on aime bien que, quand on va pas bien, on aime bien que quelqu'un nous console, mais consolé par Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Consolé par Dieu? Alors là, quand on repense à ça, mais l'apôtre Paul, parlant de toutes ces afflictions, dit « nos légères afflictions du moment présent ». Et quand vous regardez la liste de ces légères afflictions, de son moment présent, on croirait que c'est le scénario d'un film d'horreur. C'est vrai. Mais il peut dire, hein, nos légères afflictions. Vous voyez, trois fois battu de verge, cinq fois flagellé, trois naufrages, lapidé, trahi. Il a été mis en prison je ne sais combien de fois, plusieurs années, livré aux bêtes, etc. Il dit, ça c'est les légères afflictions du moment présent. Pourquoi? Parce que lui, il avait lu les Béatitudes. Parce que lui, il ne les avait pas seulement lues, mais parce qu'il les vivait. Il dit, heureux, il savait, heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Et ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que ce texte, même si ce texte ne parle que des catégories sociales des gens qui ont des problèmes, c'est un texte extrêmement joyeux. C'est un texte dont le refrain, ce qui revient constamment, c'est « heureux ». Et Jésus ne veut pas simplement dire, n'en parle pas simplement comme quelque chose qui est au pluriel. Il ne dit pas « vous serez heureux quand vous serez consolés ». Mais il dit « vous êtes heureux maintenant, parce que vous serez consolés ». Mais vous êtes heureux maintenant, parce que vous le savez déjà. Parce que vous l'avez déjà, parce que vous en avez déjà le potentiel, parce que ça existe déjà en vous. Alors c'est un peu paradoxal, parce que je suis en train de dire qu'on peut être à la fois malheureux et heureux en même temps, et c'est vrai. Je crois que c'est exactement ça. On peut être malheureux, on peut être en difficulté, on peut avoir des tas de besoins, on peut être face à des problèmes même insolubles. On ne va pas vous faire le coup de dire « Oh, avant midi, tout sera résolu », ce n'est pas vrai. Mais avec tout ça, avec tout ça, nous sommes déjà heureux. Parce que nous sommes disciples de Jésus. Disciple de Jésus, ce n'est pas membre d'une association. Disciple de Jésus, ce n'est pas des gens qui ont souscrit à une liste. Disciple de Jésus, ce sont des gens qui ont reçu Jésus en eux-mêmes. Des gens qui vivent avec Jésus. Et des gens qui, dans cette relation avec Jésus, reçoivent quelque chose que ceux de l'extérieur n'ont pas. Combien de fois des gens sont venus à l'évangile parce qu'ils ont simplement vu dans leur famille, sur leur lieu de travail, des chrétiens, et avant même que ces gens aient pu leur témoigner, ils sont venus vers eux, ils leur ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial chez toi? Tu as quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, c'est quoi? Voilà, c'est la bonne odeur de Christ qui est en nous. Heureux les affligés, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors moi, j'aime pas bien le mot débonnaire. Vous l'employez souvent, hein? Qui c'est qui dit souvent débonnaire, hein? Des fois, de temps en temps, on le dit, hein? Non, hein? De votre voisin, oh, mon voisin, il est vraiment très gentil, quelqu'un de débonnaire, hein? Non, on l'emploie jamais. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on emploie dans les Bibles des fois des mots comme ça. Ils ont mis ici une petite note, littéralement, ceux qui sont doux. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas laissé ce qui était littéral, ça serait beaucoup mieux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. On aime les gens qui sont doux. On aime les gens qui sont paisibles, qui sont gentils, qui sont agréables. Hein. Heureux ceux qui sont doux. Souvent, dans le monde, ici, les gens qui héritent de la terre, ceux qui possèdent toutes choses, c'est plutôt d'habitude des gens, comment on va dire, c'est ceux qui en veulent, hein, hein, hein. C'est ceux qui ont du caractère, c'est ceux qui n'hésitent pas, c'est ceux qui, quelquefois, vont prendre... Pardon. C'est ceux qui, quelquefois, vont arracher les choses. Et souvent, ceux qui sont très doux, ben, c'est pas des très bons businessmen, hein. Mais Jésus dit, heureux ceux qui sont doux, parce qu'il y a un projet pour eux. Alors, si tu es doux, reste-le. Si tu l'es pas trop, tu peux faire des progrès. Hein? Si, c'est permis, c'est permis. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim de voir la justice de Dieu, l'ordre de Dieu régner. Comme des fois on rêve à ce que deviendrait le monde si seulement Jésus régnait. Si Jésus régnait. Vous imaginez ce que deviendrait la planète en, je ne sais pas même, je dirais juste, allez, une année, tiens, disons. Juste en un an ou deux, ce que deviendrait la planète si Jésus régnait. Ce que deviendrait la justice, hein, ce que ça produirait. Mais je pense qu'en un an, deux ans, on aurait réglé 95% des grands problèmes de l'humanité. Un an ou deux, tous les problèmes fondamentaux sont réglés. Tous les problèmes de faim dans le monde. Parce que la faim dans le monde, c'est absolument pas un problème de denrées. C'est pas un problème de quantité, c'est pas un problème d'insuffisance de la terre. La terre peut nourrir deux fois plus d'habitants que ce qu'elle a maintenant, actuellement. C'est seulement un problème de distribution, c'est seulement un problème d'égoïsme, hein. C'est seulement un problème d'injustice. Hein. Il suffit, on gèle tous les projets, dans toutes les nations, on gèle pendant deux ans tous les budgets militaires de toutes les nations, vous vous imaginez? Mais on a rien que ça, c'est tout, on change rien, juste ça. Eh bien déjà on a changé le monde. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui voient ces choses et qui soupirent parce qu'ils disent « Mais comment ça se fait qu'on vit dans un monde qui est aussi mauvais ? Comment ça se fait qu'on vit dans un monde qui est aussi méchant ?» Moi, des fois, je vais vous dire, des fois je suis étonné que la terre existe encore. Je dis « Mais je pense que j'ai de la peine à comprendre comment Dieu la supporte. » Quand on voit que Dieu n'a plus pu supporter... Avant le déluge, ce qu'était la société humaine, Dieu dit, mais c'est incroyable ce que ces gens sont devenus. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre société est meilleure? C'est incroyable. Des fois, je dis, mais comment Dieu fait pour supporter encore l'humanité? C'est fou. Alors, si on ne comprend pas ce qu'est la patience de Dieu, alors à travers ça, on ne le comprendra jamais. Et nous, on voit ces choses-là. Et on a faim et soif, on voudrait que les choses... Alors, c'est comme une faim, une soif. Mais un jour, nous allons le voir. un jour, nous allons le voir, Dieu va intervenir, il va changer tout ça, et nous allons être rassasiés de justice, rassasiés de choses bonnes, rassasiés de choses qui sont bien faites, rassasiés de choses qui sont équitables. Heureux, dit Jésus, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Parce que quand nous, nous faisons miséricorde, eh bien, Dieu nous fait miséricorde. Et c'est même, ça va dans les deux sens. C'est parce que nous savons que Dieu a été tellement bon avec nous. Il a été tellement miséricordieux. Comment est-ce qu'on pourrait encore en vouloir à quelqu'un? Après tout ce que Dieu nous a passé, nous, on pourrait encore en vouloir à quelqu'un. Mais ce serait, mais ça serait même pas cohérent. Dieu nous a pardonné des millions de péchés, et puis nous, on voudrait en retenir deux ou trois à ceux qui sont autour de nous. Non, c'est pas possible. Mais non, ça c'est pas possible. Mais non, on peut pas faire ça, personne ne peut faire ça. Enfin, on est disciples de Jésus. Hein? Mais parce que nous faisons miséricorde, Dieu nous fait miséricorde aussi. Et je crois que déjà, même ici sur la terre, les gens qui sont miséricordieux, même ici sur la terre, les gens qui sont miséricordieux souvent trouvent en face d'eux plus de miséricorde aussi. Quand vous faites miséricorde, quand vous êtes dur, quand vous êtes intransigeant, quand vous n'avez pas d'indulgence, vous risquez de rencontrer des gens qui seront comme ça aussi. Et alors, peut-être que ça vous fera à ce moment-là comprendre. Hein? Mais la parole de Dieu nous dit d'être indulgent. Indulgent, ça ne veut pas dire injuste, ça ne veut pas dire absoudre le coupable. Ça veut dire indulgence, ça veut dire de reconnaître qu'il a des excuses, je dirais. Ça veut dire de reconnaître qu'il a des circonstances atténuantes, si on parle en termes plus juridiques, plus législatifs. Heureux, dit Jésus, ceux qui ont le cœur pur, hein, car ils verront Dieu. Ça, c'est une de celles que, dans ces béatitudes, c'est celle que je préfère, ou en tout cas celle qui pour moi me parle le plus. Hein. Parce que la parole de Dieu nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Hein. Voir Dieu tel que Dieu est, c'est impossible. C'est même pas dans notre échelle. C'est pas dans notre perception possible. Hein. Mais plus notre cœur est pur devant Dieu, plus nos intentions sont claires, hein, plus la présence de Dieu nous est sensible. Hein. Plus on peut s'approcher de lui sans frayeur. Hein. Avec la crainte respectueuse de Dieu, mais sans frayeur, sans angoisse. Plus on est pur, plus Dieu nous apparaît. C'est pas qu'on va avoir une image mentale de Dieu. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas de l'imagination. Mais c'est un contact de sa présence. Hein. Vous savez, j'aime bien cette image, ce récit. Quand le prophète Élie, à un moment, a été suite à beaucoup de choses, il est passé par un moment de découragement. Et il s'est retiré dans une contrée très désertique. Et là, il était dans une caverne. Et puis Dieu lui a parlé. Mais Dieu lui a parlé gentiment. Dieu lui a pas dit, alors Élie, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, un type comme toi, tu devrais être fort. Dieu n'a fait aucun reproche. Dieu l'a fait parler pour que Élie s'exprime. Et peut-être qu'Élie ne l'avait pas suffisamment dit, alors Dieu lui a fait redire encore une deuxième fois. Et puis après, Dieu lui a dit, sors de la caverne, je vais passer devant toi. Ça prouve que même dans la situation où Élie était, Dieu le considérait comme un homme pur. Dieu voulait se montrer à lui. Dieu voulait le reconstruire par cette relation. Dieu lui a pas parlé avec des théories de thérapie. Dieu lui a proposé comme thérapie de retrouver une présence directe avec lui. Dieu lui a pas dit, je comprends ce que tu as vécu, il y a ceci, il y a cela, on a fait ci, tu as fait ça, tu as souffert comme ça, etc. Voilà ce qu'on va faire. Écoute, c'est un plan de thérapie très simple, en 17 points. Non, Dieu lui a dit, sors de la caverne. Sors de tes problèmes, sors de ton affliction, sors de ton marasme, sors de ton repli sur toi, présente-toi, moi je vais passer devant toi. Et quand Élie est sorti de la caverne, Dieu est passé. Mais Élie, Élie était un homme pur et c'était un homme sage. Il savait qu'il ne pouvait pas regarder Dieu en face. Alors quand il a vu que Dieu passait, Élie n'avait rien d'autre sous la main, il avait son manteau. Alors il a pris son manteau, il s'est couvert le visage avec son manteau parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans ce récit qu'on parle du manteau d'Élie? Vous savez ce fameux manteau qui était ce manteau de puissance, le manteau avec lequel Élie séparait les eaux du Jourdain. Mais ce manteau, il a commencé à se construire dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu. La crainte d'un homme qui avait le cœur pur et à qui Dieu proposait de se faire voir à lui. Et c'est ça l'origine du manteau de puissance. Bien sûr, tout le monde veut le manteau de puissance, mais juste le manteau. Mais le manteau de puissance, c'est le manteau de celui qui a le cœur pur et à qui Dieu propose de se faire voir et qui le vit dans la crainte de l'Éternel. Jésus dit « Heureux, heureux, ceux qui ont le cœur pur ». Bien sûr, quand ils arriveront au ciel, ils verront Dieu. Mais déjà ici-bas, ils vont commencer à vivre dans cette relation avec Dieu. Et c'est une relation qui est une relation qui donne une véritable joie. Une véritable joie, indépendamment des conditions matérielles dans lesquelles vous vivez, indépendamment des conditions sociales, familiales, difficiles dans lesquelles vous vivez. Certains vivent avec des circonstances qui sont vraiment pénibles, qui sont dures. Il y a des gens qui vivent avec des tragédies permanentes dans leur vie, des gens qui ont des handicaps, des gens, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Bien sûr, peut-être un jour Dieu les changera. Mais Dieu n'a pas promis qu'il changerait tout pour tout le monde. Mais le défi, c'est que ceux-là, parce que leur cœur est pur, ils peuvent voir Dieu. Ils peuvent voir Dieu et ils savent déjà qui est Dieu et où ils vont. Heureux, heureux, dit Jésus, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire être appelé fils de Dieu? Parce que fils de Dieu, c'est le titre et l'identité de Jésus. Ceux qui procurent la paix seront appelés du nom qui désigne le plus communément, le plus glorieusement Jésus. Ceux qui procurent la paix, alléluia. Ceux qui, le texte en grec, c'est ceux qui fabriquent de la paix, ceux qui produisent de la paix. Ceux qui sont, voilà, quelquefois on a dit des ouvriers de paix, ceux qui œuvrent à la paix. Ceux qui produisent la paix. Est-ce que vous aimez fabriquer de la paix? Quand vous fabriquez de la paix autour de vous, quand vous fabriquez de la paix dans votre société, alléluia, vous ressemblez à Jésus. Vous êtes appelé fils de Dieu. Alléluia. Alors les dernières, bien sûr, c'est celles qui sont un peu plus délicates. Parce que heureux ceux qui sont persécutés, là on a plus de peine. Hein. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, moi j'ai un peu de la peine. Persécuté, c'est pas très drôle, persécuté. Mais c'est seulement dans cette perspective où nous nous souvenons qui nous sommes réellement en tant que disciples de Jésus et où nous allons. C'est seulement dans cette perspective que ces versets ont un sens. Jésus a pu n'avoir aucun objectif pour cette terre-là. Il avait pas de projet immobilier. Il n'avait pas de propriété. Il n'a pas voulu construire un truc à lui. Il était dégagé de tout ça. Parce qu'il savait exactement qui il était et où il allait. Et nous devons nous rappeler ces choses-là. Et c'est une gloire de pouvoir être persécuté pour le Seigneur. C'est une gloire de pouvoir souffrir des choses difficiles pour lui. Croyez bien que je ne le dis pas légèrement. Moi, si je me mets à penser pour moi-même à certaines circonstances dans lesquelles vivent, par exemple, des chrétiens dans des pays où la foi est complètement interdite, où des gens souffrent, croyez bien que si j'y pense pour moi-même, ça me fait trembler. J'y pense pas en me disant « Oh, qu'est-ce que ces gens ont de la chance !» Mais quand même, je sais quand même que ce que Jésus a dit est absolument véridique. Heureux ceux qui consacrent leur vie, ceux qui donnent leur vie pour la cause de celui qui a donné la sienne pour eux. Jésus dit « Votre récompense sera grande hein. ». Et il ajoute « C'est comme ça qu'on a persécuté dans le temps les prophètes ». C'est-à-dire que ceci nous met au même niveau, ceci nous fait rentrer dans la même catégorie que les Élie, que les Ésaïe, etc. Ça, que les Jérémie, tous ces gens qui ont tellement eu des difficultés, Jésus nous dit voilà, vous êtes dans le même lot, vous êtes dans la même catégorie, c'est extraordinaire. Moi, vraiment, voyez, j'aime bien de voir combien l'apôtre Paul, qui est à la fois ce grand apôtre, ce grand prophète hein, du Nouveau Testament, peut dire, tiens, on peut lire dans 2 Corinthiens, juste, je ne veux pas tout lire, mais 2 Corinthiens 6, où il parle de toutes les choses, un des passages où il parle de toutes les choses difficiles dans lesquelles il a vécu, et il dit, par exemple, au verset 8, chapitre 6, verset 8, il dit, « Au milieu de la gloire et de l'ignominie, quelquefois il était loué et quelquefois il était méprisé. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, on a de la peine à comprendre comment quelqu'un comme l'apôtre Paul pouvait des fois avoir une mauvaise réputation. C'est incroyable, un gars comme ça. Il est dit étant regardé parfois comme imposteur. Imposteur, c'est un escroc, quoi. Un escroc. Paul, un escroc. Ah ben dis donc, ça devait lui faire... Quand il devait lire les manchettes des journaux et il voyait qu'il était un escroc, ben dis donc, ça devait quand même lui faire quelque chose. Hein? Un escroc, moi, eh ben, quoique toujours véridique, comme inconnu. C'est l'homme qui a changé son siècle. Il a changé le monde de son époque, inconnu. Ça, c'est marrant, quoi. Quoique bien connu, comme mourant. On pensait toujours qu'on l'avait vaincu, et puis il ressortait toujours un peu plus loin. Même la fois où ils l'ont lapidé. Vous savez pourquoi il n'est pas mort, celui-là? Parce qu'ils ont cru qu'il était mort. Sinon, ils auraient continué. Mais ils ont dit, ah, cette fois, on l'a eu. Seulement, il s'est relevé. Et il est rentré dans la ville. Moi, je pense que j'aurais fait un détour, mais lui, il est rentré pas. Il dit, comme vivant, comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et il dit, et nous sommes toujours joyeux. Ah là, là les bras m'en tombent. Hein. Ah, je sais pas, vous savez que Paul s'appelait avant Saul, hein, mais ce n'était pas un Saul pleureur. Hein. Aujourd'hui, oui, ça y est, il y en a qui viennent de comprendre après, hein, c'est bon, ça y est. J'aimerais lire encore. Oui, il y a toujours deux temps. Ésaïe 55. On arrive à la fin. Ésaïe 55. Je voudrais juste terminer par ça. Ce verset qui parle de la foi. Ce verset qui parle de la foi que nous avons dans l'efficacité de la parole de Dieu. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, dit Dieu, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, ni accompli mes desseins. Et le verset suivant dit, oui, vous sortirez avec joie. Ah, ça j'aime. J'aime ça. J'aime que le verset qui vient après cette magnifique proclamation de la puissance de la parole de Dieu, j'aime bien que le verset suivant dit, oui, vous sortirez avec joie. Oui, vous sortirez avec joie. La parole de Dieu ne peut pas, qui sort de sa bouche, ne peut pas revenir à lui sans avoir exécuté son effet, sans avoir accompli son dessein, sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Un point, virgule, à la ligne, ouvrez les guillemets. Oui, vous sortirez avec joie. Aujourd'hui, frères et sœurs, parce que nous sommes les disciples de Jésus, nous pouvons être dans la joie. Aujourd'hui, nous pouvons être dans la joie. Je sais bien que beaucoup d'entre nous ont des tas de motifs d'affliction. Je sais bien que beaucoup ont des difficultés, quelques-uns des difficultés vraiment graves, des sujets de chagrin, des deuils, des problèmes physiques, des maladies, des problèmes dans leur famille. Beaucoup sont tellement en peine de voir leurs proches qui marchent de façon insouciante vers l'enfer. Beaucoup se déchirent le cœur de penser à toutes ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire vraiment aujourd'hui, regardez à Dieu, regardez à Jésus, écoutez Jésus qui nous dit heureux. Il dit à ses disciples, heureux, 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 soyez heureux, soyez heureux. C'est même pas soyez heureux, Jésus dit qu'ils sont heureux. Nous pouvons l'être. Ne croyez pas que je dis ça comme si c'était dans une sorte de facilité. Vous voyez, la méthode Coué, on est heureux, puis après je sais bien que tout le monde va sortir comme ça, puis il se dépatouille avec ses problèmes. C'est pas ce que je veux dire. Je sais bien qu'il y a des tas de choses qui sont difficiles, mais c'est parce que ces choses sont difficiles que j'aime vous rappeler que le disciple de Jésus a la capacité de vivre dans la présence de Dieu, malgré les difficultés, quelque chose qui est le bonheur que Dieu met dans son cœur. Frères et sœurs, et que tout ce que nous ne vivons pas ici, nous le vivrons au ciel. Ce n'est pas une sorte de fatalisme. Ce n'est pas, on laisse tomber, puis on verra bien plus tard. Ce n'est pas ça. C'est très actif, c'est constructif. Ça nous permet de regarder les vrais objectifs. Et ça nous permet d'avoir non seulement la tête dans le ciel, mais ça nous permet d'avoir vraiment les pieds sur la terre. Nous sommes pas, je dis pas ça comme si on devait vivre une espèce de, vous voyez, des fois quand on dit béat, on imagine des gens béats, on les imagine un peu déjà un peu évaporés, quoi, hein. Non, c'est pas ça. Jésus était très très intégré dans le tissu social de son temps, très très pragmatique, très concret, très très lié avec les gens, très au courant de tout ce qui se fait, très concerné par toutes les choses de son époque et de ses relations. C'est pas quelqu'un qui planait, il marchait pas un mètre au-dessus du sol. Il était réellement avec les gens. C'est ce que nous pouvons vivre. Vous savez, aujourd'hui, je suis frappé de voir que plus la société va, plus le progrès avance, j'ai l'impression, dans la société, plus le nombre de gens qui ne sont pas bien dans leur tête augmente sans cesse. Le nombre de gens qui sont malheureux ne cesse d'augmenter. Ne serait-ce que, par exemple, juste un paramètre. Un paramètre, c'est qu'on a démontré qu'aujourd'hui, la proportion des gens qui souffrent de la solitude a été multipliée par je ne sais combien. Dans les grandes métropoles, dans des villes comme Paris, on estime qu'il y a presque maintenant une personne sur deux qui vit toute seule. Toute seule. Alors comment voulez-vous que les gens ne soient pas malheureux? C'est antinaturel. C'est anti-humain. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu ne nous a pas créés pour être tout seul au milieu d'une foule. Le pire, quitte à être tout seul, autant être dans le désert. On sait qu'on est tout seul. Mais tout seul au milieu de 10 millions de Parisiens, mais c'est horrible. Tellement de gens sont affligés aujourd'hui. Il y a tellement de causes. La famille qui se détruit, toutes ces choses-là, c'est des causes d'affliction qui se multiplient sans cesse. Je voudrais vous dire, à vous qui êtes disciples de Jésus, Jésus a dit « Heureux parce que vous êtes mes disciples. » Heureux parce que vous êtes mes disciples. C'est pas une joie facile. C'est pas une joie de divertissement. C'est pas la joie du plus grand cabaret. C'est la joie réelle de ce que Dieu crée en nous. Si nos objectifs sont centrés sur Jésus, si nous vivons avec lui. J'aimerais que nous prions quelques instants ensemble. On peut fermer les yeux deux secondes là comme ça. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je voudrais vraiment te prier pour tous ceux qui, ce matin, en entendant ce rappel de tes paroles, qui proclament que tes disciples sont heureux, tous ceux pour qui c'est un peu acide à écouter, tous ceux pour qui c'est difficile. Et je voudrais te prier, Seigneur, pour qu'ils soient maintenant, pour que la puissance de ta parole, Seigneur Dieu, qui sort de ta bouche, puisse maintenant leur communiquer une foi nouvelle dans cette puissance que tu as, dans cette relation qu'ils sont avec toi et qui peut les changer et les transformer. Au nom de Jésus-Christ, hein, au nom de Jésus, saisissez maintenant cette foi. Regardez dans votre cœur, regardez à Jésus, regardez à Jésus. Là, oubliez ce qui se passe à côté de vous, oubliez ce qui se passe. Ne regardez pas à gauche, à droite, hein. Ne pensez pas, restez, fixez vos yeux sur Jésus maintenant. Fixez vos yeux sur Jésus maintenant. recevez maintenant cette satisfaction dans sa présence. Dites-lui dans votre cœur, Seigneur Dieu, je veux être satisfait par la foi, je veux être satisfait en Jésus. Je regarde à toi et je crois que c'est toi qui me rends heureux maintenant. Merci Seigneur. Et maintenant au nom de Jésus, je prends autorité au nom de Jésus sur toute puissance d'affliction dans les pensées, toute puissance de tristesse, toute puissance de déprime, toute puissance d'angoisse, de frayeur, toute puissance d'accusation, dévalorisation, tout ce qui fait du mal dans l'âme et dans l'esprit. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que tous les disciples de Jésus-Christ qui sont tenus opprimés par ces choses, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, que vous soyez libres maintenant, au nom de Jésus. Puissance d'affliction, de dépression, au nom de Jésus, toute puissance de tristesse et d'angoisse, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter maintenant tous les bienheureux. Je vous ordonne de quitter tous les disciples de Jésus. Vous les quittez maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.